Vous avez bien une anecdote à nous raconter.
Ah oui, je vais vous raconter.
Le témoin du vendredi, Jean-Claude Drouot.
Thierry Lafronde est mort. Vive Jean-Claude Drouot!
L'ombre de Thierry Lafronde qu'il incarnait au milieu des années 1960 a longtemps suivi Drouot. Combien de gamins ont porté ce prénom à cause de lui? Cependant, de suite, il a secoué la tutelle du succès commercial, rompant avec les emplois qu'il lui réservait, jouant furieusement excessif les pièces paniques d'Arabal, interprétant sur le registre de la simplicité le bonheur d'Agnès Varda. Son personnage, qui n'en était pas un puisqu'il jouait en famille, était menuisier. Il y a un côté artisan chez Drouot. Chef de troupe, il a été Cyrano et Jaurès. Persuadé dès sa jeunesse en Belgique que le français est une magnifique langue de théâtre, il a été Alceste et Auguste. Massif, mais traversé par une faille, il a été le roi Lear et Kin. Drouot est passé par des institutions de plus en plus importantes, directeur du Centre dramatique de Reims, du Théâtre national de Belgique, pensionnaire à la Comédie française, mais ce ne fut jamais très longtemps. Ce ne fut pas une carrière, mais un parcours atypique, sportif, où le théâtre l'a emporté sur le cinéma et les grandes sagas familiales de la télé. Au cinéma, disait Jouvet, on a joué. Au théâtre, on joue.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Jean-Claude Drouot, donc, qui vient de publier, vous nous expliquerez, Jean-Claude Drouot, le sens de ce titre, Le cerisier du pirate, aux éditions de l'Archipel. Ce ne sont pas des mémoires, on ne fait pas de théâtre dans les cimetières.
Non, c'est un bilan, une sorte de bilan.
Dites-moi, ici à France Inter, Alex, Charline, on est habitué à la présentation d'une Belgique sceptique, ironique. Alors je ne sais si c'est votre côté toujours professoral qu'on vous a reproché parfois. Vous nous dites que la Belgique vous a enseigné, à vous, la gravité.
Je suis flamand, par ma mère. Et ma gravité, qui m'est assez naturelle, je la reconnais comme étant flamande, une qualité flamande. Oui. Je ne suis probablement pas identifiable comme un Belge tel qu'on les accueille très favorablement aujourd'hui. C'est-à-dire, je n'ai pas, comme eux, le sens de la dérision. Suis-je trop sérieux?
Ma non, mais vous êtes un Belge, j'allais dire arboricole, qui monte aux arbres.
Oui, oui, oui. Oui, c'est un peu le titre de cet ouvrage, enfin de ce moment, de Le cerisier du pirate. Alors, c'est un titre d'ailleurs qui apparaît comme énigmatique. C'est quoi, ce pirate? On est pirate quand on est enfant et qu'on monte aux arbres. Oui, c'est mon cerisier.
Et celui cerisier, de votre jardin, familial.
Oui, familial. C'est un très grand cerisier. C'est plus grand, l'arbre le plus haut du jardin. Et j'aimais, gamin, adolescent, grimper tout là-haut et puis, voilà, et me balader comme sur un trois-mâts dans les grands vents du large, comme ça. Et je pense que je continue, c'est mon cocotier, quoi. Je continue dans la tête à grimper en haut de mon cerisier.
Non, mais je vous arrête parce qu'il faut faire preuve d'humour. Vous allez nous dire dans un instant que la Belgique est visionnaire. Non, la Belgique, quand même, aime le français comme une magnifique langue de théâtre qu'il faut apprendre à Paris. Alors, vous avez eu un maître en Belgique, Huyens, et puis, vous êtes arrivé assez vite au cours Dulin,
oui,
à Paris.
Après avoir vu les spectacles présentés par le TNP de Jean Villard. C'était L'École des femmes, jouée, mis en scène par Georges Wilson, L'Édipe, jouée par Villard, etc., dont Jean-Claude Huyens, auquel je dois beaucoup, c'est lui qui m'avait dit, faisant écouter la voix de Villard dans l'Henri IV de Pirandello, tu as vu, écoute comme le français est une admirable langue de théâtre.
Alors Villard, premier père non génétique, j'ai cité Jouvet, on va entendre Dulin. On vous fait écouter un disque encore plus ancien que celui de Villard que vous écoutiez enfant.
Chemin faisant, il voit le cou du chien pelé. Qu'est-ce là, lui dit-il? Rien, quoi rien, peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, dit le loup, Vous ne courez donc pas où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore.
Alors, vous êtes arrivé de faire un spectacle sur la fontaine, vous êtes plus proche du loup, là.
Ah oui, mon choix, c'est le loup.
Ouais.
Le loup s'enfuit et court encore. Oui,
oui mais je ne veux pas quand même être trop pesant en matière de souvenirs. Pendant que vous répétiez Oreste, un rôle classique.
Mon premier rôle, oui.
Guèze vous repère au théâtre Récamier et il vous embauche pour Thierry Lafronde. Ça, c'était le rôle du chien, avec un collier. 63-66.
Oui, bah, c'est devenu... Tellement anormal, une bourrasque médiatique absolue, très inquiétante. Et un jour, au bout de quelques mois, une année peut-être, j'avais rencontré, croisé Michel Simon et je m'inquiétais. On disait, bah, voilà, il est prisonnier de son personnage, il va jamais s'en remettre. Voilà, il va disparaître corps et bien. Et Michel Simon, très gentiment, dit, bon, pour me rassurer, il me dit, on m'a appelé Boudu toute ma vie.
Mais le chien Thierry, votre tante, un jour, vous dit...
Ah ben le chien, oui, le chien Thierry, oui, mais ça c'était un peu la fin de tout, quoi. Une de mes tantes, en Belgique, à laquelle je rendais visite, à mon oncle, me montrant un petit chien, mais absolument hideux, absolument une catastrophe qu'elle venait d'acquérir, me dit... croyant probablement me faire plaisir, me dit « je l'ai appelé Thierry ». Bon, ça a été pour moi vraiment une chose catastrophique. Je veux dire qu'il fallait mettre le holà à cette idolâtrie.
Et donc, vous n'avez pas renouvelé le contrat. C'est vrai que vous avez voulu être chanteur à un moment ?
Oui.
Alors, vous voici dans le palmarès des chansons.
Tiens.
Chemins de joie, des chevaux de soleil m'emporteront vers toi, brisant la lave noire de tes nuits, chassant le désespoir et l'ennui, et pour nous les chevaux de l'amour feront sabots de
La musique de Jacques Lussier a été très importante dans le succès accordé à ce Thierry Lafronde. Très important.
Mais votre beauté aussi, hein, le physique. Roger disait, il est trop beau pour réussir jamais.
Oui, ça c'était... Oui, Éric Remer, on m'a rapporté un jour qu'Éric, à mon sujet, Remer avait dit, oui, il est trop beau, il ne fera jamais rien d'intéressant. Bon, ce qui est tout à fait préoccupant et vexant. Bon, dès lors, je regarde l'œuvre de M. Remer avec prudence également.
Je vais faire comme notre excellent confrère Philippe Vandel sur France Info. C'est vrai, Jean-Claude Drouot, que vous avez posé nu pour Salvador Dali avec Amanda Lear ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, lors d'un tournage avec Kirk Douglas au Cap Creux, près de Caracas, eh bien, Salvador Dali, ben, je suis devenu dans son entourage le plus familier, son chevalier pendant un mois et demi. Nous tournions là-bas dans la région de Caracas. Et puis, et un jour, il a souhaité me peindre en Saint-Georges terrassant le dragon. Bon, oui, c'est un moment plein d'émotions. Enfin, d'émotions parce que, évidemment, le grand maître qui était Dali, je ne pouvais qu'accepter avec... avec pudeur, le fait de m'exposer nu sous son regard de peintre.
Ah, la pudeur, oui, ça vous caractérise. Vous prenez un virage en épingle à cheveux après Thierry Lafronde et vous allez, c'est un grand moment, 67, participer au cimetière des voitures d'Arabal. Franck Olivard, qui a recherché sur les écrans les traces de ce spectacle au Théâtre des Arts. C'était place de Clichy, tout près de la place de Clichy. A dit, mais il est très beau, en fait, Drouot, puis il est en string, mais il est très physique. Il gambade, il fait l'acrobate dans un casque de voiture.
Oui, oui, c'était le cimetière de voiture d'Arabal, mis en scène par le seul homme dont j'ose dire, voilà, c'était un génie, c'était Victor Garcia. Victor Garcia était un véritable visionnaire.
Oui, mais ça a provoqué beaucoup de surprises, parce que Arabal, c'était un théâtre physique, c'était aussi un théâtre panique. Il disait, vous laissez l'intelligence au vestiaire, vous allez assister un sacrifice, et alors ça laissait les journalistes interloqués. Voici celui de l'ORTF Dijon et les réponses que lui fait Arabal, qui demande des explications.
Il y a eu des réactions diverses à l'issue des représentations. On peut dire à juste titre, Arabal, que vous êtes un auteur discuté. Voulez-vous en deux mots nous résumer le sens véritable de votre pièce, nous dire quelles sont vos intentions ?
On a dit que c'est une sorte de parodie de la vie du Christ, hein. Peut-être c'est vrai. Je n'étais pas conscient pendant que je faisais la pièce.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, nous serons bons et purs comme les anges.
Non ?
Oui.
On ne pourra pas.
Ce sera très difficile. On essaiera.
Comment ?
En observant la loi du Seigneur.
Je l'ai oublié.
Moi aussi.
Alors comment allons-nous faire ?
Pour savoir ce qui est bien ou mal ?
Oui.
J'ai acheté la Bible.
Et ça suffit ?
Ça nous suffira.
Nous serons des saints.
C'est trop demandé, mais on peut essayer.
Ça va être tout différent.
Oui, très.
Comme ça, on ne s'en ira pas comme maintenant.
Et puis, ce sera très joli.
Il y a souvent des identifications de Drouot au Christ, mais là, c'est un Jésus qui m'a tourné assez mal. Enfin,
Rabal parlait de ce reproche qu'on lui faisait d'être une sorte d'ironie de la Passion du Christ. Moi, j'y suis très sensible, et dans plusieurs autres rendez-vous, oui, j'ai eu une tentation christique dans mes attentes poétiques, oui.
Il s'appelle Emmanou. Il y a un Emmanou dans votre famille. C'est le personnage d'Arabal,
oui,
s'appelle Emmanou.
Emmanou, celui que l'on attend, c'est le nom que j'ai donné au quatrième de nos enfants.
Il n'y a pas encore autant d'enfants dans la famille quand Agnès Varda vous repère et qu'elle vous demande, en toute simplicité, de jouer avec votre femme Claire, avec les deux premiers enfants que vous avez déjà d'elle, votre rôle. Et alors vous qui êtes dans l'excès, la santé, vous trouvez que c'est très minimaliste ce qu'elle vous demande.
Mais c'est-à-dire qu'elle maternisait, elle freinait toute tentative d'interprétation. Agnès était dans ce choix bressonien, c'est-à-dire la non-interprétation.
Vous jouiez un menuisier, ça vous va d'ailleurs assez bien. Et ça, c'est bien, vous a dit un voisin que vous aviez au cinéma à côté de vous, c'était Jacques Brel.
Et d'aval plus tard ?
Non, c'est une cabane de trappeurs pour Robert et pour moi. Les filles pourront pas y venir.
Même pas moi ?
Toi, tu as tous les droits. C'est ça que j'aime quand on est tous ensemble. J'aimerais bien aussi qu'on ait beaucoup d'enfants. Il faut attendre, je crois.
Oui, moi aussi, je crois.
Et puis, je ne veux pas que tu sois fatiguée. Il faut que tu aies du temps pour qu'on se repose ensemble.
J'en appelle à ton rire, que tu croques au soleil. J'en appelle à ton cri, à nul autre pareil. Au silence joyeux, qui parle doucement. À ces mots que l'on dit, rien qu'en se regardant. À la pesante main de notre amour sincère, à nos 20 ans trouvés, à tout ce qu'ils espèrent, pour que monte de nous, et plus fort qu'un désir, le désir incroyable de se vouloir construire, en préférant plutôt que la gloire inutile et le bonheur profond. Et puis la joie tranquille
J'en appelle aux maisons écrasées de lumière. J'en appelle à ton cri, à nul autre pareil.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec notre témoin de ce vendredi, Jean-Claude Drouot, si vous chantiez Brel, ce serait ça, j'en appelle aux maisons écrasées de lumière.
Ah oui, oui, ça c'est dans ma belgitude et mon identité profonde. Oui, il me reste cette envie, qu'elle n'est pas nouvelle. Je voudrais consacrer un moment pour chanter Brel. Voilà.
La maison d'Evry, la maison du Quercy, le désert des Agriates pendant quelques années en Corse, les maisons écrasées de lumière, vous choisissez de les aménager un petit peu comme des maquis de l'âme.
Oui, ben, maquis de l'âme, c'est Delteil qui parlait du maquis de l'âme. Je suis un homme de théâtre, disons, bâtisseur. Les ruines, je ne les aime pas en tant que ruines. Je me dis, mais moi, je vais les relever. Voilà. Et notre région d'élection, c'est le Quercy. Et là-bas, eh ben oui, c'est pas un projet, c'est un... Il y a en construction de très vieilles ruines, notamment celle d'un ancien petit presbytère, dont il manque pour l'instant le toit, mais qui sera une prochaine maison de parole. Voilà. Oui, c'est important, probablement pour pallier à l'éphémère de notre réalité du théâtre. Comme ça. Hein, j'ai besoin de construire ou de faire construire. Oui.
L'éphémère de la réalité du théâtre. On ne va pas parler de tous les personnages qu'infatigables vous avez interprétés. Je voudrais en retenir un à cet instant, c'est Kean. Alors c'est un personnage qui a inspiré Alexandre Dumas, comme Jean-Paul Sartre, et vous avez monté un Kean selon Sartre. C'est un peu vous, c'est un battleur qui joue d'instinct et puis qui ensuite joue les classiques.
Oui, mais c'est un phénomène. Je veux dire, il a complètement bouleversé le sentiment qu'on avait de l'interprétation théâtrale. Enfin, il était d'un virisme, plus qu'un réalisme, absolument, qui faisait s'évanouir les femmes dans la salle quand il jouait Othello, le meurtrier, Othello, etc.
Parce qu'il y a un moment, on va vous entendre dans le rôle, où s'ouvre une faille dans laquelle va se précipiter le danger et ça va s'élargir et provoquer un divorce avec le public.
Shakespeare est un fromage.
Comment ?
Un fromage ! Et je le débitais par tranche. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?
Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ?
J'étais un marchand de fromage. J'avais l'immunité des bouffons.
Mais cette fois-ci, c'est sérieux. On veut vous perdre.
Qui ? On ?
Il y a le public. Quand il a trop admiré, il faut qu'il tue. Défendez-vous, maître. Je vous en supplie. Faites-leur face!
Crois-tu que je veuille demander ma grâce? Il l'accorderait au bouffon.
Il ne s'agit pas de demander grâce.
Que veux-tu que je fasse?
Si vous consentiez pour un jour ou deux...
À quoi?
À faire semblant
de...
Oui. Vous étiez si beau dans le roi Lear.
Mais mon pauvre vieux, même si je le voulais, ce serait impossible. Je ne peux plus jouer.
Parce que j'ai pris conscience de l'éphémère du comédien, de la bâtardise du comédien.
Oui, ben c'est bien pour ça que je continue. J'ai le sentiment de n'avoir pas encore touché cette vérité que j'appelle de mes voeux depuis un demi-siècle. Cette vérité en moi. Je m'empare des personnages, mais j'attends d'eux qui me permettent de surgir de moi, de m'arracher de moi. Voilà, si je continue, c'est plus par passion, bien sûr, mais j'ai le sentiment que le meilleur de moi, il est devant moi. Il est demain.
Il faudrait peut-être là faire la différence, à partir de l'exemple du personnage de Kean, entre l'acteur et le comédien.
C'est Dulin qui est le plus bel exemple d'artisan de théâtre. Hein ? Dulin disait l'humilité du comédien. Hein. C'est en quoi, je veux dire, pour moi, Le modèle le plus beau que je salue, c'est Michel Bouquet. Pour moi, c'est le plus bel exemple. Je suis l'instrument de mes personnages. Et il s'agit de gommer en nous notre narcissisme, notre ego, etc., d'être vraiment l'instrument réel, humble, je ne dis pas modeste, humble, au service du personnage.
Un grand théoricien du théâtre, qui était en même temps directeur du théâtre au ministère de la Culture à l'époque, Robert Abirachet, vous voit jouer Kean, et voilà que vous est confié le Centre Dramatique National de Reims, et puis dans la foulée, le Théâtre National de Belgique, dont vous devenez directeur. Alors je me souviens vous avoir vu à l'époque, vous rêviez de théâtre mobile, vous insistiez sur l'idée qu'il ne pouvait pas y avoir de théâtre national sans un très large public.
Bien sûr, je suis né de Villars, c'est-à-dire mettre les plus belles œuvres de notre répertoire au service du plus grand nombre. Hein. Et donc, là où il n'y a pas, les instruments, les théâtres, c'était le cas en Champagne-Ardenne à l'époque, hein, et où nous avions le projet avec Bernard Sazy, avec qui était à l'époque président de la région Champagne-Ardenne et maire d'Épernay, nous entendions vraiment très amicalement, très parfaitement, et bien nous avions le projet d'une bulle, d'un théâtre nomade, comme ça. Et ça a été le cas aussi quand j'étais responsable du Théâtre National de Belgique. Eh bien, cette mission de décentralisation était évidemment très importante.
Je vous sers sur un plateau une formule qui vous ressemble. Le théâtre n'est pas un lieu supplémentaire pour nos divisions. Sauf qu'elle est de Jean Genet.
Ah oui, ça c'est très surprenant. Ça me réjouit à l'occasion des bonnes que je mettais en scène à Reims. Et j'ai trouvé cette phrase venant de Genet, disant « Le théâtre ne peut pas être le lieu un lieu supplémentaire de nos divisions. »
Voilà. Alors, le rassemblement, mais aussi la retraite, ça vous caractérise. En 1975, vous rencontrez quelqu'un que la télévision a rendu populaire sur le tard, qui s'appelle Joseph Delteille.
Rencontre pour moi très, très, très importante.
Qui est-ce ?
Joseph Delteille a été ce qu'on peut appeler la coqueluche dans les années 20-25 des salons littéraires parisiens, d'où sort ce phénomène. En 75, nous avons joué une adaptation pour le théâtre d'un roman. Delteille n'est pas un homme de théâtre.
Il s'était retiré, il faut le dire ça.
Ah, il s'était retiré, il avait quitté, il avait fui, il a fui. Il a fui la célébrité. Il avait été une coqueluche réelle, comme ça. Il avait eu le prix féminin pour sa Jeanne d'Arc, hein, la fameuse Jeanne d'Arc de Dreyer. Bon, c'était la Jeanne de Delteille. Et il a connu cette bourrasque, comme ça, qui l'a, au bout de quelques temps, l'a complètement inquiété, et il s'est retiré.
C'était comment la maison de la Tuilerie, la maison principale de Joseph Delteille ?
Il y avait un top dans la main entre une relation magnifique, quoi. À chaque fois que je sortais de lui avoir rendu visite, mais j'étais comme en état de lévitation, tellement cet homme, et pas dans un propos théorique ou etc. Comme ça, il pouvait évoquer avec amusement son exclusion par Breton du groupe surréaliste, ça l'amusait beaucoup, etc. Bon, il parlait avec beaucoup d'admiration, d'amitié de Sonia Delaunay, hein, et de Chagall, etc.
Il vivait dans la sérénité que vous appelez de vos voeux. Qu'est-ce que c'était cette sérénité ?
Le plaisir de m'emmener dans la cave chercher une blanquette. La blanquette, comme ça. Et sur ces blanquettes, j'en ai chez moi deux bouteilles pas ouvertes, la petite blanquette de Limoux. Hein, il cultivait la vigne pour le plaisir, disait-il. Attention, pour le plaisir. Hein. Et quand il évoquait les matins, l'aube, eh bien, il en parlait comme Nijinsky ou Nureyev, comme ça, chantant dans les pampres, comme ça.
Comment peut-on le matin sortir de la rosée et ne pas danser.
Eh bien, voilà, il y avait une manière, hein, une sérénité magnifique qui vous lavait le cœur.
Et il y avait une deuxième maison où il passait l'été, non pas dans les environs de Montpellier à Massane, comme le reste de l'année, mais à La Galaube.
J'ai passé la moitié de ma vie à La Galaube. C'est ma terre d'enfance, pour ainsi dire. Et j'ai dit que pour moi, c'était en concurrence avec le paradis. La galope représente pour moi, si vous voulez, une attitude paléolithique. J'abuse un peu de ce mot, mais j'en abuse avec amour et humour aussi. Mais en même temps, ça représente un coin du monde privilégié. Dès qu'on nous aura débarrassé de toutes ces odeurs, de toutes ces bombes nucléaires, de toutes ces choses, j'ai l'impression que dans 100 ans ou 200 ans, le monde entier ressemblera à la galope. Je ne crois pas que dans le ciel, où j'y vais un jour, évidemment, je ne crois pas trouver mieux que certains paysages de la galope. Quand je me promène, par exemple, le long de la Rigole, absolument seul, avec d'un côté un bruissement de l'eau qui m'accompagne, et de l'autre, quelques chants d'oiseaux. Vraiment, par moments, je me sens dans le monde du paradis.
La Rigole qu'on entend dans les archives du XXe siècle de Jean-Marie Drault, c'est la Rigole de Riquet. Mais, parlons de Jésus II. Alors donc, vous avez monté, puisque vous avez bien l'identification avec le personnage de Jésus, oui. Jésus II de Delteil.
Oui, oui. Le personnage ne se prenait pas pour Jésus, mais il disait, ce Jésus II, là, des évangiles, eh ben, il m'intéresse, quoi. Il faut faire comme lui. Voilà. Rappelons-le, Delteil s'était muré dans un silence, en tout cas, il n'avait pas édité pendant 15 ans, s'étant retiré là, et après le scandale de Hiroshima, il a écrit ce Jésus II. Voilà.
Alors, Jésus II est avec ses disciples, il cherche à en recruter d'autres.
Oui, mais des disciples vraiment de pacotille. C'est le SDF que j'ai vu en venant tout à l'heure, qui est là autour de la maison de la radio, et qui se déboutonnait, qui pissait devant un spectacle ahurissant. Bon, en voilà un des personnages de Delteil, de ce Jésus II. Donc, il ne pouvait que se ramasser la gueule et se faire tabasser. Alors, il dit, bon, mais il y a un type qu'il faut que j'aille voir, c'est le pape. Probablement que le pape actuel aurait trouvé auprès de lui un interlocuteur plus attentif.
Delteil dit « Je n'ai pas l'esprit franciscain, j'ai l'esprit françoisien ».
Oui, françoisier, oui.
Françoisier, c'est mieux.
Françoisier, oui. Ben, c'est le dernier grand livre de Delteil, hein, c'est son regard sur François d'Assise.
Et est-ce que vous savez, votre souvenir est fidèle, quelle est la dernière phrase, Jean-Claude Drouot, de Jésus II ?
Sur la plus haute branche, un rossignol chantait.
Et le titre de votre livre, eh ben c'est comme en écho, c'est Le cerisier du pirate, c'est aux éditions de l'Archipel. Merci infiniment à vous.
Merci à vous.
L'émission a été préparée par Franck Olivard, la réalisation c'était Jacques Sigal et à la technique Serge Viguier.